suis content d'être devant vous ce matin et de pouvoir partager des versets de la Bible. On en a tous besoin, je pense que notre nourriture spirituelle, ça commence par la parole de Dieu et sa présence, bien sûr. Et ce matin, je voudrais simplement vous inviter à ralentir. C'est vrai qu'on vit dans un rythme, dans une société où il y a tout qui s'enchaîne. Les journées sont pleines, les pensées sont nombreuses, les préoccupations aussi s'accumulent. On passe par des choses sans toujours prendre le temps de s'arrêter. Et même lorsque nous venons parfois au culte le dimanche matin, il arrive que notre esprit continue de courir. Il pense à ce qui s'est passé cette semaine. Il anticipe aussi ce qui vient. Il organise, il prévoit, il gère, il veut contrôler. Mais il y a dans l'Écriture des moments qui demandent autre chose que la rapidité. Des moments qui demandent du silence, du recul, une écoute attentive. Non pas parce que le texte est compliqué, mais parce qu'il est profond. Il existe aussi des passages où il se passe beaucoup d'événements, des batailles, des miracles, des foules, des événements. Et puis il existe des moments plus discrets, des moments où ce n'est pas l'action qui domine, mais la parole. Des moments où quelqu'un parle après avoir longtemps gardé le silence, des moments où quelques phrases seulement portent le poids d'années entières. Ce sont des instants particuliers, des instants où la parole surgit, non pas comme ça, non pas à la légère, mais puissamment. Des instants où ce qui est dit a été mûri, travaillé, porté intérieurement. Et il y a aussi dans nos propres vies des moments semblables. Des moments où on a longtemps gardé quelque chose en soi. Des moments où on a attendu avant de parler. Des moments où, enfin, une parole peut être prononcée. Non plus dans la réaction, non plus dans l'émotion immédiate, mais dans une forme de clarté nouvelle. Et Genèse 45 nous conduit dans un de ces instants. Ce n'est pas un chapitre bruyant. Ce n'est pas un moment spectaculaire, mais c'est un moment qui est dense. Un moment où le passé rejoint le présent. Un moment où une parole vient éclairer ce qui a été traversé. Un moment où ce qui était resté enfoui devient audible. Et avant de chercher à comprendre, avant d'expliquer, avant d'interpréter, il faut d'abord l'écouter. Écouter lentement. Laisser le texte se déployer. Laisser les mots trouver leur place. Car parfois, ce n'est pas en allant vite qu'on saisit le sens. C'est en acceptant de demeurer quelques instants dans la parole. Alors, ce matin, avant toute analyse, je vous invite simplement à écouter. Écoutons ce qui se passe lorsque le silence s'interrompt. Écoutons les mots qui sont prononcés après une longue attente. Et on va prendre ce texte qui se trouve dans Genèse 45, les versets 1 à 9, que je vais vous lire. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison du Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez envoyé pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Avant d'entrer dans les axes, il faut comprendre le poids de ce passage. L'histoire de Joseph, elle commence en Genèse 37 et se termine en Genèse 50. 13 chapitres. C'est un des récits les plus longs consacrés à un seul personnage dans la Bible. Joseph a environ 17 ans lorsqu'il est vendu. Il se révèle à ses frères plus de 20 ans plus tard. Vous imaginez ? Ce détail, il est fondamental. Ce que Joseph dit en Genèse 45, ce n'est pas une réaction émotionnelle. C'est une confession de foi forgée dans la durée. Genèse 45 marque le sommet théologique du récit. Tout ce qui précède y conduit et tout ce qui suit en découle. Et ce matin, je vous propose trois axes pour approfondir et étudier cette parole. Le premier, ce sera « Dieu travaille longtemps dans le silence avant de révéler le sens ». Le deuxième, la foi mature tient ensemble responsabilité humaine et souveraineté divine. Et le troisième, Dieu ne guérit pas une histoire pour la refermer, mais pour l'inscrire dans une œuvre plus large, plus grande. Donc on va commencer par le premier axe, où Dieu travaille longtemps dans le silence avant de révéler le sens. Genèse 45, les versets 1-3. Joseph ne pouvait plus se contenir, il bouillonnait. Et cette phrase, elle semble brève, presque anodine, et pourtant, elle marque un tournant majeur dans tout le récit de Joseph. Elle ne décrit pas simplement une émotion qui déborde, elle signale que le temps du silence est arrivé à son terme. Pour comprendre cela, il faut se souvenir de ce qui précède. Depuis Genèse 42, Joseph y reconnaît ses frères, mais il ne se révèle pas. Il parle par l'intermédiaire d'un interprète, alors qu'il comprend parfaitement la langue. Il met en scène des situations complexes, il observe leurs réactions, il teste leur cœur. Joseph, il ne joue pas avec eux, il discerne. Et ce discernement est déjà le fruit du travail de Dieu dans sa vie. Car l'homme impulsif de 17 ans, celui qui racontait ses rêves sans mesurer l'impact, n'aurait jamais agi ainsi. Le silence a transformé Joseph. Mais ce silence n'est pas seulement le sien, il est aussi celui de Dieu. Pendant plus de 20 ans, Dieu n'explique rien à Joseph. Il ne lui dit pas pourquoi il a été vendu, il ne lui dit pas pourquoi il a été accusé injustement. Il ne dit pas non plus pourquoi il a été oublié en prison. Il ne lui dit pas pourquoi il doit attendre encore et encore. Et pourtant, la Bible insiste, presque de manière répétitive dans les chapitres précédents. L'Éternel était avec Joseph. Cette affirmation, elle est fondamentale pour une foi adulte. Elle nous apprend que la présence de Dieu ne signifie pas l'absence de silence et que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Dieu est avec Joseph, mais Dieu ne s'explique pas. Pourquoi ? Parce que Dieu ne cherche pas seulement à informer Joseph. Il cherche à le former, à le transformer. Si Dieu avait donné trop tôt une explication à Joseph, cette explication, elle serait devenue un raccourci spirituel. Et Joseph, il aurait peut-être interprété sa souffrance avec une logique encore immature. Il aurait peut-être compris les événements, mais il n'aurait pas été transformé intérieurement. Le silence de Joseph a marché par fidélité et non par compréhension. Il l'oblige à obéir sans voir la foi. Il l'oblige à rester sans être récompensé, la persévérance. Il l'oblige à exercer des responsabilités sans reconnaissance, le service. C'est dans ce silence que Joseph apprend à gouverner, sans dominer, à servir avec sans amertume, à attendre sans se durcir. Et c'est précisément ce travail invisible qui rend possible ce moment de Genèse 45. Quand Joseph dit « Je suis Joseph », il ne dit pas avec de la colère, ni avec ironie, ni avec désir de revanche. Il le dit avec une autorité tranquille, une autorité qui ne vient pas du pouvoir politique, mais d'un cœur façonné par Dieu. Le silence a purifié son regard sur lui-même. Joseph n'est plus défini par ce qu'on lui a fait. Il n'est plus seulement le vendu, l'oublié ou l'injustement accusé. Il est devenu un homme qui sait ce qu'il est devant Dieu. Voilà pourquoi le silence était nécessaire. Dieu ne se tait pas pour faire souffrir gratuitement. Il se tait parfois pour empêcher que nous parlions trop vite ou que nous agissions trop tôt ou que nous interprétions mal ce qui est en train de se faire. Le silence de Dieu protège parfois notre avenir spirituel. Et j'ai pris une illustration. Un béton qui est coulé trop rapidement, il semble solide au départ, mais il se fissure avec le temps. Alors qu'un béton qui prend lentement, il devient durable. Le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est un temps de prise. Une foi adulte accepte que Dieu travaille longtemps avant de se révéler, avant de révéler le sens. Elle accepte que certaines réponses n'arrivent qu'après que le cœur ait été transformé. Elle accepte que Dieu préfère souvent former le caractère plutôt que de satisfaire la curiosité, notre curiosité. Et quand enfin le silence se brise, ce n'est pas pour expliquer chaque détail du passé, mais pour permettre une parole juste au bon moment, avec un bon cœur. C'est exactement ce que nous voyons ici. Joseph parle enfin parce que le silence a accompli son œuvre. Le deuxième axe, c'est tenir ensemble responsabilité humaine et souveraineté divine. Genèse 45, les versets 4 à 8. Après s'être révélé à ses frères, Joseph dit une phrase très simple, mais décisive. « Approchez-vous de moi. » Ce n'est pas un détail anodin. Joseph ne parle pas de loin. Il ne reste pas dans une position de supériorité froide. Il réduit la distance. Dans la Bible, la distance, elle est souvent liée à la peur, à la culpabilité, au jugement. La proximité, elle, elle est liée à la grâce de Dieu. Joseph crée un espace où la vérité peut être dite sans écraser l'autre. Mais attention, réduire la distance ne signifie pas supprimer la vérité. Et Joseph continue. « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. » Cette phrase est capitale. Joseph ne parle ni de malentendus, ni de circonstances malheureuses, ni de destin. Il nomme clairement l'acte. « Vous m'avez vendu. » La Bible ne banalise jamais le mal. Elle ne le dit pas, elle ne le dilue pas dans un discours spirituel vague. Elle affirme la responsabilité humaine. Joseph ne lui dit pas « les choses, elles sont arrivées comme ça, par hasard ». Il dit « vous avez agi, vous ». Et pourtant, et c'est là que le texte devient profondément exigeant, Joseph ne s'arrête pas à cette affirmation. Il ajoute immédiatement « ne vous affligez pas et soyez pas fâchés contre vous-même, car c'est pour vous sauver la vie, que Dieu m'a envoyé ici. » Cette phrase, elle montre où Joseph place Dieu dans sa vie. Joseph ne retire rien à la faute de ses frères, mais il refuse que la faute soit le dernier mot. Il tient ensemble deux réalités que nous avons souvent tendance à opposer. D'un côté, une responsabilité humaine, pleine et entière, et de l'autre, une souveraineté divine intacte. Joseph ne dit jamais que Dieu voulait la trahison. Il ne dit jamais que le mal était nécessaire. Il ne dit jamais que le péché était une étape indispensable pour comprendre. Il dit autre chose. Dieu a travaillé à travers ce que les hommes ont voulu pour le mal. Le texte ne confond jamais les causes. Les frères sont responsables de leurs actes, mais Dieu reste souverain dans l'histoire. C'est une théologie biblique très fine et surtout très adulte. La Bible ne cherche pas à résoudre cette tension, elle la maintient. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais le mal ne met jamais Dieu en échec. Joseph relit toute sa vie à partir de cette conviction. Il ne voit plus son histoire comme une suite d'accidents, ni comme une fatalité écrite d'avance, ni comme une injustice absurde. Il la voit comme une histoire tenue par Dieu, même quand elle semblait échapper à tout sens, à son intelligence. Cette relecture ne minimise pas la douleur. Elle ne gomme pas les années perdues. Elle ne transforme pas le mal en bien. Mais elle empêche le mal de devenir le centre du récit. Et c'est ici que se joue une différence fondamentale entre foi immature et une foi mûre. Une foi immature cherche des responsables immédiats. Qui a fait ça? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi je traverse ça? Une foi mûre ne nie pas ces questions, mais elle refuse qu'elles soient les seules. Joseph n'explique pas tout. Il confesse une chose essentielle. Dieu est resté souverain, même quand les hommes ont été injustes envers moi. Et cette conviction change tout. Parce que tant que je crois que mon histoire dépend uniquement de ce que les autres m'ont fait, bah je vais rester prisonnier de mon passé, de ce que j'ai reçu comme coup. Mais quand je crois que Dieu a tenu mon histoire sans approuver le mal, alors le passé ne disparaît pas, mais il perd son pouvoir sur ma vie. Jésus n'excuse pas ses frères, il ne banalise pas leur acte, mais il leur donne plus de pouvoir de définir toute son existence. C'est pour cela qu'il peut dire sans amertume et sans revanche, « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici. » Cette phrase n'efface pas la responsabilité humaine, mais elle affirme la souveraineté de Dieu. Et c'est précisément cette articulation qui rend possible le pardon, la réconciliation et l'avenir. Sans cette foi-là, Joseph aurait peut-être écrasé ses frères. Ou il aurait vécu toute sa vie comme une victime. Mais parce qu'il tient ensemble responsabilité humaine et souveraineté divine, il devient libre. C'est cela une foi arrivée à maturité, une foi qui ne justifie pas le mal, mais qui refuse qu'il ait le dernier mot. Le troisième point, Dieu ne guérit pas une histoire pour la refermer, mais pour l'inscrire dans une œuvre plus large. Genèse 45, le verset 9. Après avoir parlé du silence, après avoir tenu ensemble responsabilité humaine et souveraineté divine, Joseph fait quelque chose de très concret. Il agit. Il agit. Le verset 9 commence ainsi. « Hâtez-vous de monter vers mon père et vous lui direz. » Ce verset est souvent lu trop vite, comme une simple transition narrative, mais en réalité, il y a un changement majeur qui se produit dans ce verset, dans ce petit bout. Jusqu'ici, Joseph a expliqué ce qu'il a compris. À partir du verset 9, il met en mouvement ceux qui sont devant lui. Cela nous révèle quelque chose d'essentiel sur la manière dont Dieu agit. Dieu ne guérit jamais une histoire pour la refermer sur elle-même. Joseph aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu baisser les bras. Il aurait pu dire, maintenant que tout est clair entre nous, rentrez chez vous, vous pouvez repartir. Il aurait pu garder cette réconciliation comme un moment intime, personnel, presque privé. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que dans la Bible, la guérison n'est jamais une fin en soi. Elle est toujours le commencement de quelque chose de plus large. Joseph transforme immédiatement ses frères en messagers. Ceux qui avaient été les acteurs du mal deviennent maintenant des porteurs de cette parole. Et c'est là que le texte devient extrêmement fort. Souvenons-nous ce que ses frères avaient fait auparavant. Ils avaient menti à leur père. Ils avaient fabriqué un récit pour cacher la vérité. Ils avaient présenté une tunique ensanglantée pour faire croire à une mort. Mais maintenant, Joseph leur confie une mission inverse. Allez dire la vérité. Dire ce que Dieu a fait. Dire ce que dire que Joseph est vivant, dire que Dieu a agi. Ça, c'est un renversement radical. Dieu, il ne se contente pas de pardonner les frères. Il leur confie une responsabilité nouvelle. C'est une logique qu'on retrouve souvent dans la Bible. Dieu, il ne fait pas que réparer. Il réaffecte. Des personnes marquées par leur passé deviennent porteuses d'avenir. Non pas parce que le passé est oublié, mais parce qu'il est dépassé par ce que Dieu est en train de faire. Joseph comprend alors une chose fondamentale. Son histoire ne lui appartient plus seulement. Pendant longtemps, il a souffert seul. Il a porté cette histoire en silence. Mais maintenant, cette histoire, elle devient collective. Elle concerne son père, elle concerne sa famille, elle concerne tout un peuple menacé par la famine. Joseph ne dit pas simplement « Dieu m'a sauvé ». Il dit « Dieu m'a envoyé pour sauver ». Ce changement, il est décisif. Joseph, il comprend pas seulement, il ne se comprend plus seulement comme un survivant, mais il se comprend comme un envoyé. Cela signifie que ce qu'il a traversé, ce n'était pas uniquement pour sa propre survie, mais pour la vie des autres. Cela ne rend pas la trahison bonne. Cela ne justifie pas la souffrance. Cela ne transforme pas le mal en bien. Mais cela affirme une chose très forte. Dieu est capable d'inscrire une histoire blessée dans une œuvre de salut plus large, plus grande. Joseph, il commence à voir que sans l'Égypte, il n'y aurait pas eu de réserve pendant la famine. Sans ces réserves, sa famille n'aurait sûrement pas survécu. Et sans cette famille, l'histoire du peuple de Dieu aurait été compromise. Encore une fois, la Bible ne dit pas que le mal était nécessaire. Et c'est cela qu'on comprend au verset 9. La guérison qu'il a reçue ne l'enferme pas dans le passé. Au contraire, elle ouvre une responsabilité plus grande, une foi adulte qui accepte que Dieu transforme nos blessures en lieu de transmission. Pas forcément de grandes tribunes, mais des lieux où la vie peut circuler, où sa vie peut circuler. Joseph, il ne parle pas pour soulager. Il parle pour nourrir. Il parle pour protéger. Il parle pour sauver. Et c'est peut-être cet axe, à cet endroit qui nous rejoint le plus profondément. Quand Dieu guérit une histoire, ce n'est pas pour que nous disions simplement « j'ai tourné la page, je passe à autre chose ». C'est pour que cette page, elle soit réécrite autrement et qu'elle serve à autre chose qu'à enfermer. Dieu ne supprime pas le passé. Il lui enlève le pouvoir d'être stérile. Et ce que Joseph comprend ici, c'est que son histoire blessée devient une histoire féconde. Non pas parce que tout a été réparé, non pas parce que Dieu l'a inscrite dans quelque chose de plus grand que lui. Et c'est cela que... Mais parce que Dieu l'a inscrite dans quelque chose de plus grand que lui. Et c'est cela une foi arrivée à maturité. Une foi qui accepte que Dieu ne guérisse pas seulement pour apaiser, mais pour faire circuler la vie. Sa vie. En conclusion, Genèse 45 ne montre pas un homme qui a oublié ce qu'il a vécu. Joseph n'efface ni le puits, ni la trahison, ni la prison, ni les années perdues. Il ne dit jamais que tout était bien, tout était rose et tout était beau sous le soleil. Il ne dit jamais que le mal était nécessaire. Ce que Joseph fait est beaucoup plus exigeant que cela. Il refuse que le mal soit le dernier mot dans sa vie, dans son histoire. Pendant longtemps, son passé, il aurait pu définir son identité. Il aurait pu rester celui qu'on a rejeté ou celui qu'on a trahi. Ou celui à qui on a volé des années, 20 ans, plus de 20 ans. Mais au chapitre 45, Joseph nous montre qu'une autre lecture est possible. Non pas une lecture naïve, non pas une lecture qui excuse tout, mais une lecture qui place Dieu au-dessus de ce qui a été vécu. Et Joseph ne relit pas son histoire pour se rassurer. Il la relit parce qu'il a compris que Dieu n'a jamais cessé d'y être à l'œuvre, même quand rien n'était visible, même quand tout semblait injuste, même quand le silence de Dieu pesait. Cette relecture, elle ne supprime pas la douleur, mais elle lui enlève son pouvoir. Relire sa vie à la lumière de Dieu, ben, c'est pas dire « tout avait un sens sur le moment », c'est dire « Dieu est resté fidèle, même quand je ne comprenais rien ». Et c'est cela, une fois arrivé à maturité, une fois qu'il accepte que certaines réponses n'arrivent qu'avec le temps, une fois qu'il ne réduit pas Dieu à ce que nous comprenons de lui, une fois qu'il croit que Dieu peut tenir une histoire même quand elles sont brisées, même quand on croit que tout est perdu, que c'est fini. Joseph, il ne regarde plus son passé uniquement depuis son puits, depuis son trou sombre. Il la regarde depuis l'œuvre que Dieu a accomplie à travers lui. Et cette nouvelle perspective, bien sûr, elle ne change pas les faits, mais elle change leur place. Le mal n'est plus au centre, et c'est Dieu qui l'est. Et c'est peut-être là ce matin l'enjeu le plus profond de ce texte, non pas de comprendre toute notre histoire, non pas d'essayer d'interpréter notre histoire avec notre intelligence, mais de choisir depuis quel point nous la regardons. Alors la question que ce texte nous laisse, c'est pas une question facile, hein. C'est pas une question rapide, c'est pas une question émotionnelle, c'est une question de foi mûre. Depuis quel point regardes-tu ton histoire? Depuis ce qu'on t'a fait ou depuis ce que Dieu est en train d'en faire? Et je peux vous dire que dans ma vie, j'ai vécu des belles catastrophes. Je l'ai aussi cherché, hein. Mais j'ai vu la main de Dieu. Et la main de Dieu, elle est jamais. Enfin, vous pouvez tomber au fond d'un puits. Elle sera toujours assez grande pour vous récupérer, pour vous relever. Elle sera toujours là si vous vous tournez vers lui. Il ne faut pas avoir peur. Oui, les échecs, ça fait mal. Oui, les blessures, ça fait mal. Mais ce n'est pas le début, c'est le commencement. Dieu a des projets pour votre vie. Et surtout, Dieu ne vous abandonnera jamais. Comme il l'a promis, il sera avec nous chaque jour jusqu'à son retour. Il n'efface pas le passé, comme on l'a entendu. Moi, j'ai divorcé. Et du coup, on a fait... je vois mes filles un week-end sur deux. C'est les conséquences. Mais je sais que Dieu m'a pardonné du divorce. Mais je dois vivre avec ces conséquences-là. Et ce n'est pas facile tous les jours. Mais je sais qu'il est là avec moi. Et ça, ça fait toute la différence. Comme Joseph, qui a vécu cette différence, qui a compris cette différence. Alors, n'ayons pas peur de s'approcher de lui. Il voit tous nos problèmes, il connaît tous nos problèmes, il sait, il tient tout dans sa main. On dit souvent « Dieu est au-dessus de tout », mais il est au-dessus de toutes vos situations, il est au-dessus de toutes choses. Il a déjà anticipé ce que nous-mêmes, on n'a pas anticipé. Vraiment, ces paroles soient prises comme des encouragements, pas comme un jugement. Et laissez-vous impacter par le Saint-Esprit, laissez-vous transformer, acceptez d'être transformé. Voilà la clé du succès. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour votre écoute.